Chers frères et sœurs, convoquez l'épisode de Jésus qui marche sur les eaux un jour de baptême pourrait être compris évidemment comme une sorte de provocation, puisque l'objectif de ce texte semble être d'échapper à tout prix à l'eau, et en tout cas de ne pas être englouti par l'eau du lac de Galilée, la mer de la Harpe en hébreu. Et du coup, ce pourrait être compris comme une vilaine provocation, puisque le sens du baptême, indiqué par le terme même qui a été choisi, baptisé, baptizein en grec, signifie plonger intégralement. Aujourd'hui, Adam n'a reçu que quelques gouttes d'eau sur la tête, mais c'est la partie pour le tout, indiquée, ce sens du baptême qui consiste à plonger pour noyer et à relever, ressusciter, pour dire ce retour à la vie, débarrassé de tout ce qui faisait de nous le vieil homme, en hébreu littéral, le vieil Adam. Dans ce passage biblique, Pierre fait vraiment tout pour ne pas être baptisé. C'est assez savoureux quand on y regarde de près. Et Jésus va dans son sens, puisqu'il ne le laisse pas s'enfoncer intégralement dans l'eau. Il le saisit par la main pour le ramener jusque dans la barque. Voilà donc déjà une indication précieuse qui peut nous concerner, nous qui accordons parfois beaucoup d'importance aux éléments matériels de la religion. L'eau, pour nous en tenir simplement à ce signe, n'est pas toujours un élément positif. L'eau est aussi un élément possiblement mortel, et c'est d'ailleurs ce qu'intègre la dynamique du baptême, mourir et ressusciter en passant par l'eau. Alors qu'on dit aussi que l'eau, c'est la vie, et effectivement, une vie sans eau est impossible. Les signes sont donc ambigus. Ils peuvent avoir tantôt un côté particulièrement positif, un côté particulièrement négatif d'autrefois. Et cela nous conduit au premier point qu'aborde ce texte, la nécessité de l'intelligence des situations. Cela me permet d'ouvrir une parenthèse et de faire un peu de publicité gratuite pour Adam. Je profite de la présence du doyen de la faculté de théologie protestante de Montpellier pour lui dire que l'intelligence des situations est précisément le sens des études de théologie et que vous pouvez d'ores et déjà faire la préinscription auprès du doyen. Ne perdons pas de temps. Nous avons besoin de partir lancés dans la vie. Lorsque Jésus s'avance vers la barque en marchant sur la mer, les disciples qui le voient arriver disent « c'est un fantôme ». En grec, « fantasmon ». Ce terme, qui renvoie au concept de fantasme, est assez intéressant, je trouve, car il nous délivre un premier enseignement. Il est comme les disciples qui ont peur du fantasmone. Le premier enseignement sur la raison pour laquelle, à la fin de l'épisode, Pierre sera qualifié d'homme de peu de foi. Le problème de Pierre, me semble-t-il, est qu'il prend ses fantasmes pour la réalité. C'est vrai de façon très explicite, au moment où Jésus est aperçu sur l'eau en pleine nuit, et c'est vrai d'une autre manière, plus implicite, moins évidente, lorsqu'il va dire à Jésus « Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Quand les disciples crient après avoir dit qu'ils ont vu un fantasme, c'est bien parce qu'ils fantasment sur Jésus. C'est au fond l'inconscient qui s'exprime, ce qu'il y avait de plus fort en eux qui jaillit. Ils sont en pleine nuit, livrés à eux-mêmes sur une petite mer qui est démontée avant à cause du vent qui souffle sur leur embarcation, et ils ont de quoi avoir peur de mourir noyés. Et ce qu'il leur faudrait, c'est une équipe de sauvetage. Ils ont besoin de secours. Et secrètement, ils doivent se dire que si Jésus était là, une fois de plus, ils trouveraient la solution. Et voilà que Jésus apparaît au loin, déchirant la nuit de sa silhouette qui doit être à peine perceptible, à peine reconnaissable. Les contours ne doivent pas être très nets, surtout avec le vent qui souffle. L'ambiance est vraiment parfaite pour que les disciples soient particulièrement troublés, comme cela est d'ailleurs indiqué au verset 26. Jésus qui arrive, alors qu'on en a besoin, c'est presque trop beau pour être vrai. Ne serait-ce pas un fantasme ? C'est encore mieux que le fantasme le plus fou. Mais ce n'est pas un fantasme, c'est Jésus. Et tout le problème de Pierre et des disciples, c'est qu'ils projettent beaucoup de choses sur Jésus, des choses qui n'ont rien à voir avec le Jésus réel. Ils font de Jésus une sorte de réponse à tous leurs problèmes, ce que n'est pas Jésus. Ici, par exemple, il ne va pas remorquer la barque pour la faire mener à bon port. Il ne va pas soudainement calmer le vent contraire. Vous pourriez me dire qu'au moment où Pierre et Jésus montent sur la barque, le vent tombe. Ce qui pourrait être la preuve que Jésus a fait cesser le vent. Cela est vrai dans le récit de la tempête apaisée. Mais dans la tempête apaisée, c'est une autre histoire qui se joue. Ici, c'est la foi de Pierre, notre foi, qui est en jeu. Le vent tombe, quand Pierre et Jésus montent dans la barque, parce que Pierre a fait l'expérience du réel. Il vient de prendre conscience que l'image qu'il avait de Jésus était fausse. L'image qu'il avait de Jésus était le résultat de projection de ce qu'il souhaitait, mais ce n'était pas le Jésus tel qu'il était. Et cela s'observe par la demande qu'il fait à Jésus, cette demande de lui ordonner de marcher sur l'eau. Il y a un peu quelque chose de satanique dans cette histoire, ou de diabolique, pour reprendre l'épisode de la tentation. On a l'impression que Pierre est en train de tenter Jésus. « Si tu es vraiment le Fils de Dieu, fais-moi marcher sur l'eau. » Jésus lui dit de venir. Pierre sort de la barque et il coule. Quelle conclusion en tirer ? Bien, peut-être que Jésus n'est pas le Jésus que Pierre avait dans le plus secret de ses fantasmes. Ce n'est pas parce que Jésus dit à Pierre de venir le rejoindre sur l'eau que celui-ci va pouvoir marcher sur l'eau sans aucun problème. Jésus, à lui seul, ne peut défier les lois de la physique si nous en restons au cadre de cette histoire biblique. Cette histoire, en fait, symbolise la vie avec ses menaces, le mauvais temps, et avec le cadre de nos journées, à la fois le cocon de la barque, les havres de paix que nous avons ici ou là, et puis l'espace public, qui est déjà vu par l'évangéliste comme une sorte de société liquide dans laquelle on risque parfois de se noyer. Une société dans laquelle il est possible que nous n'arrivions pas à rester à la surface, mais que nous nous noyons dans les problèmes du quotidien. Jésus n'a donc pas les moyens de faire en sorte que Pierre arrive à vivre sans qu'il se noie dans les difficultés. Pierre me semble avoir une image de Jésus effectivement très fantasmée. Il pense qu'il peut tout faire et tout faire faire. Et c'est parfois notre cas au sujet de Dieu. La religion génère beaucoup de fantasmes, des fantasmes de toute puissance au sujet de Dieu. Et, à vrai dire, ceux qui sont sans religion, mais qui lorgnent du côté de la religion, ont eux aussi souvent beaucoup de fantasmes sur les croyants, parce qu'ils pensent qu'être croyant, c'est pouvoir tout faire finalement, et surtout tout réussir grâce à leur Dieu, qu'il suffirait de prier pour obtenir ce que l'on veut, ce dont on a besoin. Les religions qui s'enracinent dans l'étude des textes bibliques savent que le Dieu des fantasmes, c'est ce qu'on appelle les idoles, et que les idoles, eh bien, il faut les détruire, car elles empêchent de vivre, parce qu'elles faussent notre vision de la vie. Paul s'enfonce dans l'eau. Il se met à couler. Et ce faisant, il fait une expérience scientifique. Non pas à la méthode d'Archimède, car on ne peut pas dire qu'il ait vraiment profité de la poussée verticale correspondant à sa masse corporelle s'enfonçant inexorablement vers le centre de la Terre. Certes, il aura peut-être découvert que l'eau s'amouille, mais ce n'est pas une grande observation. Non, l'observation intéressante de Pierre, c'est que l'idée qu'il se faisait de Jésus ne fonctionne pas. Et vous voyez, ça, c'est une démarche scientifique. Prendre au sérieux notre expérience personnelle pour revisiter nos images de Dieu, nos images du sacré. Nous ne devrions jamais prendre les textes au pied de la lettre sans les interroger au regard de notre vie quotidienne, de notre actualité, de nos expériences personnelles. Alors le scientifique me dira, mais tout de même, la démarche scientifique est un petit peu altérée par le fait que Jésus reprocherait à Pierre d'avoir douté. Or, le doute est quand même au cœur de la démarche scientifique. Mais voyez-vous, la vérité est qu'il n'est pas question de doute dans ce texte. Car le verbe employé par Jésus, c'est le verbe « distazo ». Il y a le préfixe « dia » entre deux et « stazo » qui signifie grosso modo « se tenir ». Se tenir entre deux. Au fond, ce n'est pas le doute, c'est l'hésitation dont il est question ici. Pierre n'a pas su choisir entre Jésus et les menaces qui étaient autour de lui. Il est un peu comme cette âne qui est entre l'avoine et l'eau. Il ne sait pas par quoi commencer et il meurt. L'imbécile. En coulant, Pierre a donc fait une démarche scientifique qui ne lui est pas reprochée. Ce qui lui a été reproché, c'est de ne pas avoir poussé la démarche scientifique jusqu'au bout, avant de subir des conséquences qui auraient pu être fatales pour lui. Il a mis le dieu de ses fantasmes à l'épreuve, il a fait l'expérience que le dieu de ses fantasmes coule, qu'il est incapable d'accomplir ce qu'il imaginait. Au fond, il n'avait pas mis Dieu à la bonne place. Et la conclusion de Jésus en forme de « homme de peu de foi » dit que la foi de Pierre était mal placée. L'objet de la foi de Pierre n'était pas Dieu, mais l'angoisse de Pierre inversée en un Dieu totalement fantasmé. Le négatif de sa crainte et de ses peurs. Pierre avait foi en ses fantasmes, pas dans le Dieu réel, qui permet aux croyants de sortir des fantasmes et d'accéder à la vie réelle. Quelle est donc la foi qui a manqué à Pierre ? Selon le jugement de Jésus qui le traite, c'est savoureux, je vous le dis en grec, oligopistos. C'est un peu comme les oligo-éléments, mais relatif à la foi. Oligo, c'est peu, petit, ridicule, le grain de moutarde, et pistos, la foi, la confiance. Homme de peu de foi, peu de foi, peu de confiance. Eh bien, en regardant l'intrigue, l'enchaînement des faits, la foi qui fait défaut à Pierre, c'est l'adhésion que les croyants portent à Dieu, et j'allais dire à Dieu seulement. Croire en Dieu et en Dieu seulement, c'est vrai que cela ressemble à une belle formule de catéchisme, qu'il est facile de dire dans une église, dans un temple, dans une synagogue, mais qui, en situation de crise, comme c'est le cas sur le lac de Galilée, ne sert plus à grand-chose. Du moins, si la foi s'appuie sur les fantasmes dont je viens de parler. Vous savez, c'est comme cette personne qui est dans une maison, et puis il y a une pluie diluvienne qui s'abat sur le village où il se trouve, et l'eau commence à monter. Et puis des policiers municipaux parcourent les villes en disant « il faut sortir, ne restez pas dans vos maisons ». Et cet homme dit « je vais prier Dieu et Dieu me sauvera si besoin est ». L'eau monte, l'eau monte, l'eau monte. Et l'eau a déjà atteint le premier niveau de la maison, mais l'homme se réfugie au premier étage, ne craignant rien, puisqu'il appelle Dieu au secours. Et là, des pompiers passent sur une embarcation en disant « venez, venez, nous vous emportons, ne restez pas là, c'est dangereux ». Et l'homme de répondre, ne vous inquiétez pas, j'ai demandé à Dieu de me porter secours et donc je n'ai rien à craindre. Et puis la pluie ne cesse pas, l'eau monte encore. Et l'homme se réfugie sur le toit. Et là, la sécurité civile passe avec des hélicoptères pour voir s'il n'y a pas encore des personnes qui seraient reclues chez elles. Elle s'approche de cet homme, elles hurlent, mais montez, nous vous envoyons un grappin. Et l'homme de dire, ne vous inquiétez pas, j'ai confié mon sort à Dieu, je n'ai donc rien à craindre. Et puis l'eau monte encore et l'homme qui ne savait pas nager est emporté par les flots. Comme c'est une histoire, nous pouvons poursuivre l'histoire. Cet homme arrive au paradis. Vous voyez que c'est vraiment une histoire. Et là, il est très en colère. Il va voir Dieu et lui dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je t'ai prié d'un cœur sincère, d'une foi pure et transcendante, et tu ne m'as pas sauvé. » Et Dieu est un peu dans ses petits souliers, il dit, mais je ne comprends pas, je t'ai envoyé la police municipale, les pompiers, la sécurité civile, et tu ne me reproches de n'avoir rien fait. Cela pour dire qu'il est utile de revisiter nos images de Dieu pour ne pas avoir une vision qui serait par trop surnaturelle. Sortir de nos fantasmes d'un Dieu qui déchirerait littéralement les cieux pour nous saisir par la main comme Jésus saisit Pierre par la main. Jésus déclare que Pierre est un homme de peu de foi juste après que Pierre s'est mis à couler. Et c'est donc le fait de couler qui a indiqué à Jésus que Pierre n'était pas animé d'une foi remarquable. Et nous pouvons le constater, nous aussi, en reprenant les termes du narrateur qui décrit la marche hasardeuse de Pierre sur l'eau. Pierre sort de la barque, il marche sur l'eau, et il voit que le vent est fort, et il a peur. Et c'est à ce moment qu'il s'enfonce dans l'eau. Le problème de Pierre est qu'il n'a pas foi en Jésus. Nous l'avons dit, il a foi dans un fantasme qui ne pourra rien pour lui. Mais il a une autre foi. Pierre est un peu polythéiste. Il a foi aussi dans le vent menaçant. Paradoxalement, il fait davantage confiance au vent menaçant qu'à l'horizon que Jésus constitue. Il a foi dans la menace des vagues. Il se dit que les vagues l'emporteront. Il a foi dans l'inquiétude que provoque la nuit obscure. Ce sont tous ces éléments qui constituent le véritable centre de gravité de Pierre. Ce sont tous ces éléments problématiques qui occupent son esprit et qui le guident. Et qui le guident vers de plus grands problèmes. Voyez-vous, jeunes gens, la foi, c'est d'abord notre capacité à repérer dans le monde les choses bonnes qu'il y a à saisir. Les gens à qui on peut faire confiance et qui nous permettront de poursuivre notre route d'une manière sympathique et joyeuse. La foi, c'est un regard que l'on porte sur la vie, qui est un regard de confiance, qui nous permet de nous relier avec ce qui est plus grand que nous, ce qui est peut-être plus intéressant que ce que nous connaissons déjà. Au lieu d'être tendu vers son objectif, vers l'horizon qu'il voulait rejoindre, Pierre est obnubilé par les problèmes. C'est comme à l'école. Vous pouvez être obnubilé par la peur de votre maître ou de votre maîtresse. Et au fond, ça va vous tétaniser. Vous pouvez être obnubilé par la peur que vos parents ne soient pas contents parce que vous allez rapporter une mauvaise note. Eh bien, vous aurez en fait de moins bons résultats dans ce cas-là. Soyez donc attiré par l'excellence. Soyez donc attiré par la réussite. Soyez donc attiré par le métier qui vous intéressera. Soyez donc attiré par la découverte de tout ce que les matières que vous apprenez peuvent recéler de choses utiles et intéressantes pour la suite de votre vie. Apprenez les mathématiques, parce que cela vous aidera à mieux comprendre le monde. Intéressez-vous à la littérature française, parce que cela vous donnera les mots pour mieux vous exprimer et mieux nous comprendre les uns les autres, même lorsque vous discutez avec des gens qui ne parlent pas tout à fait votre langue. La peur tétanise, la peur fait couler. Ayez un talent dans votre poche. Ayez peur de le perdre, il est perdu. La foi, c'est ce à quoi nous faisons confiance. C'est ce à quoi nous adhérons. C'est ce qui nous préoccupe de manière ultime, pour le dire de manière un peu plus philosophique, ce qui nous rattache à ce qu'il y a de plus profondément sacré. La foi en Dieu, c'est ce qui relativise du coup toutes les autres attaches. Et c'est cela qui est intéressant aussi. C'est ce qui nous permet de donner moins de prise à ce qui peut parasiter notre vie. Tant que nous pensons aux bonnes choses de la vie, nous pensons moins aux choses désagréables. Et cela change notre vie. Cela nous évite d'être aigris, grincheux, rancuniers, colériques. Les fruits de l'esprit qui sont tout positifs tiennent au fait que nous sommes tendus vers ces belles choses qui sont disponibles dans la vie. Et c'est la raison pour laquelle vous pourriez toutes et tous avoir un petit macaron sur lequel est indiqué « Je suis joyeux, demandez-moi pourquoi ». Et vous répondriez très tranquillement « Parce que ma foi ne se trompe pas d'objet ». Si Pierre n'avait eu Dieu que pour Jésus, il n'aurait pas prêté autant d'attention au vent, à la nuit et aux vagues. Il n'aurait pas été attiré par tous ces soucis qui, du coup, auraient eu un caractère moins menaçant. Il n'aurait pas été attiré par ces sirènes qui n'avaient évidemment rien d'autre à lui offrir qu'un naufrage inévitable. Voilà pourquoi le vent tombe une fois qu'il est dans la barque. C'est que le vent n'a plus aucune prise sur Pierre, parce qu'il est rassuré par la barque et par la présence de Jésus sur lequel il porte un nouveau regard. Pierre aura encore beaucoup de chemin à faire pour atteindre un âge adulte dans la foi, et c'est le cas pour notre Adam, deuxième page de publicité gratuite, pour aller plus vite dans son mûrissement théologique. Je ne saurais trop vous recommander l'école biblique et le catéchisme qui seront dispensés ici même, par exemple. Pierre aura encore beaucoup de chemin à faire pour ne plus donner prise à ce qui nous fait couler au quotidien. Voyez cette chose qui lui aurait été utile un certain jeudi soir, quand il a eu à nouveau peur d'être attrapé par ceux qui avaient arrêté Jésus et qui a préféré par trois fois dire qu'il n'avait rien à voir avec ce Jésus. La peur est une bien mauvaise conseillère. Pierre aura encore du chemin à faire pour ne plus être soumis à ses fantasmes, à ses peurs, mais pour se tourner résolument vers le réel. Et le parcours de la foi, école biblique, catéchisme, études de théologie, c'est cela. Passer du Dieu de nos fantasmes au réel. C'est arrêter de projeter nos craintes ou nos souhaits un peu fous et se tenir face à Dieu, face à la vie que révèle la grâce, c'est-à-dire une vie possiblement bonne et réjouissante, une vie avec des ressources, une vie avec de nombreux aspects désirables, une vie où nous ne sommes plus taraudés par la peur de ce qui va nous arriver. Et voyez-vous, le baptême engage Adam dans cette dynamique-là. Le baptême qui évoque le fait d'être entièrement plongé dans l'eau signifie que nous pouvons nous plonger intégralement dans la vie, dans le monde, et que ce n'est pas mortel. Parce que la vie est gracieuse et que la foi est le moyen par lequel nous adhérons à cette foi, à cette grâce qui nous permet justement d'avoir toujours en ligne de mire ce qu'il y a à désirer et qui portera notre humanité à son incandescence. Se tenir face à Dieu plutôt que face aux problèmes. C'est simple comme l'Évangile. Mais en vérité, c'est tellement difficile au quotidien. Parce que les histoires du quotidien prennent souvent le pas sur notre spiritualité. Il y a une sorte d'urgence des problèmes du quotidien qui nous fait reléguer notre spiritualité un peu à l'arrière, alors qu'il serait tellement précieux de ne jamais la mettre dans notre poche. Se tenir face à Dieu plutôt que face au problème, c'est se tenir face à la vie, non pas en se demandant ce qui va nous arriver, avec une inquiétude. C'est se tenir face à la vie en se demandant ce que nous allons faire maintenant. Amen.